Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, l'offre en immigration présentée par Québec hier repose sur, bon, une consultation, deux options possibles, mais l'idée, c'est de viser plus d'immigrants économiques francophones. Est-ce que c'est la bonne approche, Nathalie?
Ben, tout d'abord, M. Legault s'est payé un cadeau pour son anniversaire aujourd'hui, 66 ans, mesdames et messieurs. Ah. Alors, faisons la vague pour notre premier ministre. Ben oui, c'est son anniversaire. Oui, c'est une bonne chose qu'on ait plus d'immigrants économiques. Par contre, viser 96 % d'immigrants économique qui parle et maîtrise le français en 2027, c'est peut-être se tirer dans le pied. Je le dis parce qu'est-ce qu'on va se priver de talent? Est-ce qu'on va passer à côté de candidatures qui seraient bénéfiques pour notre économie? La question se pose. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je persiste dans ma façon de voir les choses. Je crois que le premier ministre commet une erreur chaque fois qu'il parle d'immigration parce qu'il fait porter tout le poids de l'avenir du français sur les épaules de nos immigrants. Hier, il a commencé sa conférence de presse en disant, écoutez, comme premier ministre, je suis le seul chef d'État en Amérique du Nord qui a cette responsabilité de veiller à la préservation du français. Il dit, mon legs à moi, c'est de stopper, de mettre fin au déclin du français. Et pour ce faire, on vise plus d'immigrants francophones. 96% d'immigrants économiques en 2027, on a aussi bien dit que c'est une cible de 100%. Alors, c'est un discours, selon moi, qui est pernicieux parce que si le français, ça va pas bien, si le français ne se porte pas bien, bien, on va se tourner vers qui? On va pointer du droit des immigrants. Alors, pour moi, c'est un discours qui est réducteur et qui est pernicieux. Et là-dessus, c'est dommage parce que l'impression que donne le gouvernement de la CAQ, c'est qu'il fait preuve de dogmatisme lorsqu'il s'agit de cibler les seuils en matière d'immigration. En fait, c'est comme si le gouvernement avait une vision tunnel. Alors que cette semaine, on dit bravo à l'immigration parce que on a appris que le Québec, sur le plan démographique, a connu un bond important de sa population en 2022, 149 000 personnes de plus, grâce à quoi et à qui? Ben, à l'immigration, personnes issues d'immigration. Alors, il faut faire la vague, les amis, il faut les remercier. Alors, ce que je déplore, c'est que ce discours positif où on dit merci aux immigrants, merci de votre contribution à notre économie, à notre société, ça, on ne l'entend pratiquement jamais de la part de la CAQ.
Moi, je trouve que la conversation est mal partie. Des fois, c'est drôle. Il y a des conversations qui fonctionnent au Québec. Des conversations, par exemple, sur le système de santé. Pas obligé d'être d'accord, mais il y a une conversation basée sur des vrais chiffres, sur des vraies réalités. Conversation sur l'éducation, le décrochage des garçons, sur le manque de ressources en éducation, etc. Ça fonctionne. La violence armée, les armes, comment on va faire pour les contrôler. Je dis pas qu'on a des solutions, mais il y a une vraie conversation. Sur l'immigration, on n'a pas une vraie conversation. Il y a des domaines comme ça sur lesquels les termes sont tellement galvaudés, imprécis, faux, politiques, idéologiques, slogans, que il n'y a pas un échange. Moi, j'aimerais mettre trois éléments d'échange à la disponibilité de la CAQ pour qu'elle enrichisse sa conversation. Puis d'ailleurs, elle s'en va vers des consultations publiques. Il y a sans doute du monde qui vont y dire la même chose. Mais bon, moi, j'ai le micro, fait que je vais leur dire. Première affaire. Cette affaire-là de l'avenir du français au Québec comme langue d'affaires, l'avenir du français là, comme langue d'affaires, langue d'enseignement, langue de culture, se joue essentiellement à Montréal. Ça, tout le monde le sait. 85% de l'immigration se dirige vers Montréal. Fait que si tu ne réfléchis pas à la situation Montréal, tu parles dans le vide. Arrête de dire 60 000 ou 50 000 à la grandeur du Québec, c'est pas beaucoup, on est 8 millions. La question, c'est à Montréal. Or, la question, c'est pas est-ce que 10 000 de plus, ça pose problème, 50 000 la cible ou 60 000 la cible, pas ça. C'est la concentration dans une ville qui a déjà 50 % de personnes qui ne vivent pas dans un foyer dont la langue maternelle est le français. 50 %. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est une ville qui est abandonnée par 50 000 personnes par année. Donc, des familles, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter une maison avec deux ou trois chambres. Ils s'en vont, ils sont remplacés par des nouveaux venus qui sont souvent des jeunes qui n'ont pas besoin de trois chambres ou de deux chambres. Et souvent, ce sont des immigrants, des travailleurs temporaires, etc. Ensuite de ça, tu dois te poser la question, est-ce que cette capacité-là de 50% de francophones, dont les familles la quittent constamment, elle est capable d'intégrer les immigrants? Puis concrètement, est-ce qu'elle est capable? Si tu forces les gens à parler le français, ils vont l'apprendre, le français, là. Si tu forces des informaticiens à parler le français, ils vont l'apprendre, le français. Mais est-ce qu'ils vont devenir les futurs citoyens capables d'intégrer des nouveaux venus? Non. Ils vont parler le français un peu pour les tests, un peu de façon courtoise avec leurs voisins. Moi, j'adore. Moi, j'ai entouré d'anglophones. T'sais. Le plateau Mont-Royal, maintenant, tous les francophones qui ont partent régulièrement, pas tous, ceux qui ont été capables d'acheter leur maison restent dans leur maison, mais les francophones qui ont un deuxième enfant, un troisième enfant, finissent par partir. C'est un trend. Pas à 100%, tu sais, mais mettons à 70%, ils sont remplacés par des Français de France ou des immigrants. Je suis entouré de francophones qui sont partis remplacés par des immigrants francophones. Je leur parle tous les matins, je leur serre la main, c'est du bon monde. Ils envoient leur enfant à l'école au coin de la rue. Mais est-ce que ce sont les futurs francophones de demain qui vont intégrer les nouveaux arrivés? Non, c'est pas ça.
Fait que si tu veux poser... Tu leur dis bonjour, aïe, bonjour.
Non, mais tu sais, d'abord, il n'y a pas un modèle. Nathalie, il n'y a pas un modèle d'immigrants.
On serait à l'étranger, là. OK? On s'en va vivre en Allemagne.
Ouais.
On va apprendre l'allemand parce qu'il faut travailler puis parce qu'on a des aides.
Bon. Ben, c'est ça.
Mais dans la maison, est-ce qu'on va parler français entre nous?
Ben, c'est sûr.
Ben,
c'est
oui, voyons pas.
Je pense que, tu sais, moi, la langue parlée à la maison, c'est pas un énorme critère, là.
Non.
Puis la deuxième chose, tu sais, tu parles de ces anglophones-là. Ben, s'ils envoient leurs enfants à l'école française pour toutes sortes de raisons, c'est la deuxième génération d'immigrants.
Regarde, justement. Excuse-moi, Nathalie. Ben, comme j'ai pris la parole un peu longuement.
Vas-y.
Justement, il n'y a pas un immigrant. T'sais, l'immigrant anglophone qui parle anglais, qui est dans son, il est tout le temps dans son sol, il n'y a pas de relation avec les autres, travaille dans une compagnie d'informatique, ça existe, mais c'est pas la majorité. Moi, les immigrants anglophones dont je suis entouré, le béton, par exemple, il y en a qui envoient leur enfant à l'école française, mais eux, pas capables de parler un mot de français. Ça, c'est un cas. Il y a des francophiles. Donc, des gens qui, eux, parlent très bien le français. Il y en a qui sont francophobes, qui sont incapables de l'apprendre après 10 ans. Il y a des gens qui ont marié une Québécoise. Il y a des gens qui sont arrivés avec leur femme. Toutes sortes de situations. La question globale, au niveau des chiffres globaux, est-ce que ces gens-là vont former la population de demain capable d'attirer et d'intégrer dans la culture québécoise des nouveaux arrivants? Moi, ma réponse, c'est non. Pas à un niveau suffisant.
Ouais, tu parles d'intégration. J'entendais la ministre dire, j'ai fait la tournée de 15 régions et partout on me parle de la pénurie de logements. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce lorsqu'on parle d'immigration. Tu en as parlé, tu as référé souvent, Luc. Et c'est le plus grand objet de préoccupation de la part des citoyens québécois. Faites un sondage un matin, les gens disent, OK, peu importe les cibles, peu importe le pourcentage de francophones qu'on va accueillir, s'il n'y a pas de logement pour leur permettre de vivre, de s'intégrer, s'ils n'ont pas de place en garderie, on n'est pas plus avancé. Alors moi, je dis ce matin, mais il est où le plan en matière de construction de logements sociaux abordables? Il est où le plan pour résorber la crise
du logement? Tout simplement de logement, point. Hein? Tout simplement.
De logement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il est où le plan pour réduire la crise du logement? La ministre de l'Habitation est devenue un fantôme. On ne la voit jamais. La ministre Christine Fréchette, puis je tiens à le dire, Paul, là, ça m'a frappé ce matin encore, elle était à ton micro. Elle a pris tellement d'assurance. Écoute, elle maîtrise son dossier parfaitement. C'est remarquable ce qu'elle a réussi à faire depuis qu'elle est en poste. Maintenant, tu peux pas continuer de marteler l'importance d'accueillir plus d'immigrants francophones si t'as pas de place pour les loger. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on part pas d'une page blanche, là. 60% des travailleurs temporaires parlent français. En passant, les cibles qui ont été annoncées hier, on parle pas des travailleurs temporaires, mais j'ai dit quand même. 60% des travailleurs temporaires parlent français. Et en 2022, 88% des immigrants dits économiques avaient une maîtrise, une connaissance du français. Fait que on part pas avec des immigrants, là, 100% des immigrants au Québec qui ne maîtrisent pas ou qui ne parlent pas français. Oubliez ça, là. Alors, il y a des efforts à faire, mais en même temps, moi, c'est le discours identitaire, l'idéologie identitaire qui est rattachée à l'immigration par le premier ministre, qui me fatigue parce qu'il y a tellement de nuances. Tu les as exposées, Luc. Je tente de de les exposer à ma manière. C'est multifactoriel, l'enjeu d'immigration.
Ben, moi,
on
n'a
pas encore parlé
Nathalie,
de régionalisation de l'immigration. Là. On n'a pas encore parlé de l'immigration en région. Là.
Ben oui, je vais t'en parler justement. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Arrêtons de parler d'identité, parlons de logement. J'appuie complètement ton intervention. Je la cible sur deux choses. Soit on construit 50 000 logements à Montréal par année, puis assez pour maintenir des familles, solution 1. Soit on amène les immigrants en région, solution 2. En plus grande partie en région, ben ça veut dire qu'il faut aussi construire 50 000 logements en région, solution 2. Alors dans les deux cas, là, il faut que tu aies un plan, puis il faut qu'il soit appuyé sur une capacité de réception, puis des CPE, puis etc. Il faut qu'il soit appuyé sur une capacité d'accueil.
Très bien.
Bon, c'est-tu clair, Paul? C'est-tu clair?
Ah, madame, c'est clair. C'est clair, c'est clair.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport de la semaine, Luc commence.
Bon, premièrement, on a reçu des personnes fantastiques à notre émission et je voulais absolument vous en parler parce que on oublie les bonnes nouvelles. Donc, le CIUS a envoyé, le CIUS Centre-Sud de Montréal cherche 50 à 75 familles pour accueillir des jeunes de la DPJ. Ils veulent aussi accueillir des adultes avec des problèmes de santé mentale. Pas sûr qu'ils vont les recevoir. Ben, moi, je vois souvent ça passer dans les journaux. Les DPJ de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent, ils l'ont fait aussi. Ils cherchent des familles. Il en manque des familles. Fait que là, il y a une des familles qui venait à notre émission, puis elle a dit, écoute, c'est fantastique. Nous, on a reçu ça, là. On a été soutenus par la DPJ. Il y a eu un bon pairage. Les enfants qu'on a reçus sont maintenant des ados. Ils font partie de la famille. Ils vont avoir 18 ans. Ils vont rester dans la famille. Ils n'ont pas adopté. Ils les ont reçus. C'est pas le processus d'adoption. Fait que là, je voulais absolument parler de ça. Ça fonctionne très bien. Autre bonne nouvelle de la semaine, les éducatrices dans les classes, le projet qui avait été démarré avant Drainville, mais là, c'est Drainville surtout qui a pesé sur l'accélérateur. T'sais, les éducatrices du service de la garde travaillent 19 heures par semaine. Les heures jusqu'à 35 heures, ils vont les passer dans les classes pour aider les enseignants. Gros succès. Oui, ça fonctionne très bien. J'ai reçu une éducatrice, une enseignante de l'école Saint-Pierre-Clavert et elles expliquent que ça aide même à l'éducation. Ils apprennent à lire plus vite. C'était un dossier qui était dans la presse. Ils apprennent à lire plus vite parce que ils ont des conditions d'apprentissage qui sont meilleures. Mais l'éducatrice s'occupe de toutes sortes de tâches, là. Ouvrez vos livres. Non, il est là ton livre parce que c'est pour les plus petits. Tu sais, la file, les cases, le linge, le ci, le ça, les chicanes. Il y a en masse de travail à faire. Aussi les périodes de lecture, etc., aider pour des détails. En tout cas, on pensait que ça marcherait pas, mais tout le monde est content. Les éducatrices sont contentes, les enseignants sont contents, le syndicat est content. C'est peut-être la piste. Maintenant, je voudrais vous parler de deux chiffres qui sont sortis cette semaine. 8000 accompagnements en un an dans les tribunaux spécialisés sur la violence familiale et conjugale. Et ça, c'est juste pour les 10 juridictions là, qui ont fait l'objet du projet pilote. C'est un chiffre énorme! J'en revenais pas. Moi là, je pensais que c'était 10 fois moins ou peut-être même 50 fois moins que ça. Parce que 8000 accompagnements en un an. Si, pour comprendre ce chiffre-là, là, c'est, il y a 4 millions de femmes au Québec. Si ça, 8000, ça donne que 8000 sur 4 millions, c'est une plainte pour 500 femmes en un an. Mais on sait que la prévalence, la possibilité que ça se produise entre, mettons, 18 et 55 ans, on va mettre la possibilité là, entre 18 et 55 ans. Il faut donc que tu multiplies le chiffre par à peu près 37 pour savoir le risque que ça t'arrive dans une vie. Ça donne une chance sur 15 dans une vie de faire l'objet, de te rendre en cours pour te défendre d'agression ou d'harcèlement sexuel. Je suis renversé. Regarde, si tu compares avec le cancer du sein, c'est à peu près la même chose. Une femme sur 12 va souffrir du cancer du sein, une femme sur 15 va se ramasser dans un tribunal pour harcèlement ou agression sexuelle. Moi, je suis flabbergassé par ce chiffre-là. Autre chiffre énorme, mais lui, c'est tout le contraire. Pourtant, quand on l'analyse en détail, les plaintes pour insécurité dans le transport en commun. Les plaintes pour insécurité dans le transport en commun, c'est 6 000 en 2022. Moi, tu m'aurais dit 600, je l'aurais cru, mais c'est 6 000. C'est 10 fois plus. Sauf que ça donne 36 sur 1 million de passages dans le métro et 132 sur 1 million de passages dans l'autobus. C'est gros, mais c'est pas si gros. Parce que si tu prends le métro tous les jours, ouvrable, deux fois par jour, tu prends les transports en commun 400 fois dans l'année, ça peut donc t'arriver une fois tous les 32 ans. Donc, c'est pas énorme.
Intéressant.
C'est pas tout le monde qui porte plainte, par exemple.
Ah, gros point.
Non, mais tu sais, c'est pas que ça va doubler, là, mais...
T'as raison.
C'est ça fait pas toujours l'objet d'une plainte, mais l'insécurité dans certaines stations est réelle pour beaucoup de.
Puis des fois c'est quelque chose que tu vois, tu le sais, c'est pas
mais, tu vois
pas.
Je vais juste donner un exemple rapide à New York là. Il y a une femme, jeune femme immigrante qui est une illustratrice qui travaille comme barista dans un café. Dimanche passé là.
Ouais.
Elle prend le métro Lexington et je sais plus quelle avenue. Puis elle se fait pousser devant le train qui arrive.
Mon Dieu.
Et t'as eu l'itinérant qui est mort étouffé. Il y a un gars qui est accusé, puis il y a un fonds de défense qui. Il y a pas beaucoup d'agressions dans le métro là de New York là. T'sais, mais il y a un climat actuellement qui fait que la maladie mentale, les itinérants, l'après COVID, les gens sont inquiets puis le retour vers le transport en commun
pourrait être ralenti.
Ben, en tout cas, tu te mets pas direct sur le bord là. T'sais, tu restes à côté sur le mur peut-être. Nathalie.
Oui, je vous propose un bref palmarès des meilleures stations de la semaine. En première position, l'intelligence artificielle est une chenille qui peut devenir un tyrannosaure. Mmh. J'ai adoré cette station. Yuval Noah Harari, ou l'auteur prolifique de Sapiens, entre autres, qui est en conférence à C2 Montréal cette semaine avec Joshua Bengio, j'ai toujours un peu difficulté à prononcer son prénom, une citation qui résume très bien les dangers, les dérapages qui nous guettent en matière d'intelligence artificielle, mais arrêtez, si vous pensez qu'on va arrêter l'intelligence artificielle, oubliez ça. Savez-vous combien il y a d'abonnés à ChatGPT dans le monde? Il y en a actuellement 100 millions. 100 millions. La Commission européenne actuellement se penche sur les manières de mieux réguler cette intelligence artificielle. Alors, je dis au gouvernement fédéral, gang, regardez ce qui se passe du côté de l'Europe, ça va peut-être vous inspirer. Effectivement, pour voir comment on peut mieux encadrer la progression fulgurante de cette nouvelle façon, cette nouvelle technologie. Trudeau a tué le troisième lien. Qui a prononcé cette phrase, selon vous? Pierre Poilievre, qui était de passage à Québec. Réplique de M. Legault, pas du tout. Imaginez, là, mais M. Legault a évité le gros piège que lui tendait Pierre Poilievre, parce qu'il aurait pu répondre, ben oui, mon Pierre, toi, t'as bien raison, Trudeau a tué le troisième lien. Ben non, M. Legault s'est gardé une petite gêne, comme on dit. Vaut mieux ménager nos chicanes avec Ottawa de temps en temps. Un politicien a le droit de gagner le plus possible pour donner à ses enfants. Ça, c'est une grosse citation cette semaine, celle de François Legault, qui est sur la défensive avec le dossier touchant l'augmentation du salaire des députés. Quand j'ai entendu M. Legault prononcer cette phrase, je me suis dit, ma foi, il est à court d'arguments. Le pauvre homme ne sait plus quoi dire. Et une autre dans la même catégorie que vous avez entendue, Éric, te rends-tu compte qu'on s'est vu une fois dans l'année? Alors, Éric Lefebvre, le whip du gouvernement de l'Assemblée nationale et député d'Arthabasca, qui a fait cette déclaration, il a cité sa mère qui ne le voit pas souvent, pas assez à son goût, pour justifier l'augmentation du salaire des députés. Et là, tu te dis, on est rendu loin, pas à peu près, là, tu sais, pas à peu près. Et dans cette même veine, il y a Samuel Poulain, député de Beau-Sud, qui a publié une lettre ouverte dans les journaux. Je suis député, pas une plante verte. Alors, il y en a qui commencent à être pas mal frustrés dans les rangs caquistes. C'est l'abandon du troisième lien. C'est Emily Foster, leur ancienne collègue, qui a publié un texte qui a fait beaucoup jaser sur les désavantages ou les inconvénients liés ou les préjudices liés à la ligne de parti. Alors, lui, il a dit, à un moment donné, là, ça va faire. Je ne suis pas une plante verte. Alors, une façon pour lui de crier haut et fort à quel point il est occupé comme député. Autre chose qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine, ben deux occasions manquées. Une de la part des partis d'opposition, autant Québec qu'à Ottawa, à l'Assemblée nationale. Une occasion manquée pour avoir tiré à boulet rouge sur Michael Sebia. Tous les partis d'opposition ont tiré à boulet rouge sur Michael Sebia, alors que ce dernier n'a pas encore dit un seul mot sur son nouveau défi qui l'attend à Hydro-Québec. Et occasion manquée également à la Chambre des communes pour avoir réduit l'enjeu de l'ingérence chinoise à une triste joute partisane. Je trouve ça absolument désolant. C'est un enjeu qui est fondamental. Et la seule chose que trouvent les partis d'opposition, bien, c'est de réduire cet enjeu qui devrait rallier tous les partis politiques à la Chambre des communes. Une joute strictement partisane. Et terminons sur une note positive, les amis.
Oui.
18 ans de prison pour le chef d'extrême droite, Stuart Rhodes. Suite à l'assaut du Capitole, il était condamné pour sédition de la part d'un jury unanime, évidemment, une sentence unanime. Sa réponse à cette fameuse sentence, « Je suis un prisonnier politique ». Comme le disait si bien Manon Massé, c'est pas tout... comment qu'elle disait ça, Manon? C'est pas tout...
Les pogos le plus léger de la boîte.
Ouais, exactement. C'est pas tout des lumières. Honnêtement, le pauvre homme qui s'érige en victime. Alors, bravo au système de justice américain de l'envoyer en prison pour 18 ans.
Très bien, merci à tous les deux. Bon week-end.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.